Le peloton RMC.
Georges Quirino.
Salut à toutes et tous et bienvenue dans le peloton RMC, votre podcast cyclisme. On est en pleine Vuelta a España, qui est partie Monaco. On prendra l'accent quand on passera les Pyrénées cette semaine. D'ailleurs, peut-être qu'au moment où vous nous écoutez, le peloton a déjà passé les Pyrénées. On est lundi au moment où on se parle. On n'est pas encore arrivé à Font-Romeu, hein, là dans notre tête. Peut-être qu'au moment où vous nous écoutez, Pogacar a déjà 25 minutes d'avance. Qui sait? Qui sait? Rejoignez-nous sur Instagram, sur TikTok, Facebook, évidemment, @pelotonRMC pour débattre avec nous. Composition du peloton RMC. Notre leader s'appelle Jérôme Coppel. Salut Jérôme.
Salut Georges, salut les gars.
Ça va Jérôme?
Très très bien, mais oui, très heureux de vous retrouver.
Et dis-moi Jérôme, celui qui nous vend des chronos, il veut tout le temps avoir toujours plus de chronos.
T'inquiète, je vais t'en parler.
Non mais attends, juste je veux savoir, t'as vu la gueule du chrono de Monaco quand même?
Moi mon premier tour c'était à Monaco, c'était déjà galère comme ça.
Ouais. Non mais c'est quoi, vous passiez dans le cirque?
Non, le circuit de Formule 1, pareil, mais virage droite, gauche, mais un peu la même chose qu'à la Vuelta. Hein. C'était pas un très beau prologue non plus.
Hein. Mais tant qu'à faire, passer dans le cirque, mettez-nous des lions, des tigres, qui ça mette un peu de stress, quoi. Ça rapproche de vous comme ça, et hop, tu t'en vas. Bon, je donne des idées, hein. Après ils en font ce qu'ils veulent. Johan Wadoff est là, salut Johan.
Salut messieurs, salut à tous.
Ça va, tu t'éclates pour l'instant sur cette Vuelta?
J'ai adoré, la suivre ce week-end, j'ai adoré.
Ouais, bah, c'est ça, oui, parfois c'est vrai que les motos qui suivaient les coureurs, c'était pas évident, notamment c'était escarpé. Pierre-Yves Leroux fait sa rentrée, il nous fait l'honneur d'être avec nous. Salut mon pilou. Ah, bah, c'est une rentrée ratée, visiblement.
Il y a l'orage en Bretagne, c'est pareil. Ça. Il y a l'orage, c'est dangereux.
Bah, peut-être qu'il fera sa rentrée la semaine prochaine. Hein. On verra. Pour l'instant, c'est DNS, Did Not Start. Pierre Coachette est là. Salut Pierre.
Salut.
Pierre, tu peux nous décrire ta veste, s'il te plaît?
Elle est orange.
Ouais.
Mais vraiment orange.
Et qu'est-ce qu'il y a écrit derrière?
Headvolk.
Headvolk. Ça, c'est la grande classe, toi. Un jour, il va falloir faire un battle entre toi et Marc Madio, qui vient dans la grande gueule du sport souvent le week-end.
J'ai vu très beau t-shirt week-end.
Ouais, ouais.
Après, il y a des maîtres et puis il y a des padawan, je ne serai jamais au niveau du maître.
Alors, Marc Madio, qui habituellement vient avec des t-shirts un peu genre Giro, Italie et tout ça, il avait un t-shirt NASCAR, pour montrer qu'il aime aussi les sports mécaniques. Qu'est-ce que vous voulez? Venez comme vous êtes dans le peloton RMC. Allez, le débat qui nous agite aujourd'hui, qui agitera peut-être Pierre-Yves Leroux quand il nous rejoindra. Avec la retraite de Julien Alaphilippe à 34 ans, est-ce la fin d'une certaine idée du cyclisme? Je vous propose ce débat parce qu'on l'a beaucoup entendu cette semaine, enfin en tout cas depuis l'annonce de sa retraite et de sa retraite officielle ce dimanche. Donc voilà, on va en parler ensemble parce que c'est vrai qu'on a l'impression que le romantisme est mort ou pas. Donc celui qui n'est pas mort, et j'en suis ravi, c'est Pierre-Yves Leroux qui nous rejoint finalement. Salut Pierre-Yves.
Salut à tous. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci technique.
Ah ouais, non mais tu sais, c'est comme dans l'esplanade de départ dans un contre-la-montre, quand le mec il te fait 3, 2, 1
c'est ça. Mais j'ai fait Pedro Delgado, tu vois. T'es encore sur la rampe.
Non mais attends, bon, ça existe ça, ceux qui arrivent pas à l'heure au chrono. Jérôme, on a déjà vu, non?
Oui, en a vu un cette année, hein, au chrono entre Evian et Thonon. Oui. Et ça, c'était Mantis. J'en faisais des cauchemars la nuit. Non, mais ça me traumatisait de rater le départ d'un chrono. Quand t'aimes ça et quand tu t'espères jouer quelque chose, c'est vraiment un truc qui te stresse un peu.
Ouais. Non, mais attends, quand tu faisais des cauchemars, tu te réveillais au milieu de la nuit. Je me suis pas réveillé au chrono.
Parce que
cauchemar éclaté.
Je vous allais connaître mon histoire familiale. Faut peut-être que vous me fassiez un peu de psychanalyse. Parce que mon père, c'était un fou du chrono aussi. Il adorait ça. Et je pense que si une fois dans ma vie, j'avais raté le départ d'un chrono, je pense que j'étais renié à vie.
Ah oui.
Il m'aurait tué lui-même de ses propres mains, je pense, si j'avais raté le départ. Donc en plus d'avoir la pression
dans la chambre,
avant chaque réveil,
avant le réveil, c'est ça, avant d'aller à l'école. Tu vois. Et ça, voilà, c'est mes traumas d'enfant. Voilà, vous connaissez tout.
Bon bah écoute, on va en parler. On va en parler tous ensemble. J'espère que tu vas pas reproduire ça.
Mais moi, je suis branché 30 minutes avant là pour le podcast, par exemple, parce que j'ai peur de rater le départ comme Pierre-Yves.
Voilà, c'est ça. Pierre-Yves, hein, t'as compris, dit le présentateur qui arrive en retard au moment où on commence à enregistrer ce podcast. Mais vous inquiétez pas, on est là, on est à l'heure maintenant. Et on va lancer, comme d'habitude, le briefing de Jérôme.
Le peloton RMC, le briefing de Jérôme.
Alors je rappelle effectivement, on est lundi au moment où on enregistre ce podcast. Donc on a vu quelque chose de la Vuelta. Et on a vu surtout, comment le rater, Tadej Pogacar qui a pris des risques pour gagner. Alors qu'on entendait les mots économie sortir de sa bouche avant le départ. Tu voulais en parler Jérôme, qu'est-ce que tu veux nous dire sur Poggi?
Ouais, je voulais en parler. Alors, on va parler de Julien Alaphilippe et d'un certain romantisme du vélo. Alors, Tadej Pogacar, c'est peut-être pas ça, mais je veux quand même lui tirer un coup de chapeau. Moi, qu'on l'aime pas, qu'on croit en lui ou pas, ça reste quand même un coureur qui est là toute l'année et qui fait le spectacle. Ce qui me frappe le plus chez lui, au-delà de son palmarès et de ses résultats, c'est vraiment, tu l'as dit un peu, Georges, mais la prise de risque permanente qu'il prend pour gagner. Il a dit, je veux pas faire trop d'efforts. Mon objectif, c'est de gagner les trois grands tours, de gagner cette Vuelta. Et finalement, comme l'année dernière sur le tour à Montmartre, sous la pluie, alors que les temps étaient figés, qu'il avait déjà le tour gagné, il a quand même tout fait pour essayer de remporter l'étape. Même chose quand il va sur Paris-Roubaix, il sait que mettre les roues sur les pavés de Roubaix, c'est dangereux, que potentiellement ça peut hypothéquer la suite de sa saison et notamment le Tour de France, mais il y va quand même. Et sur cette première étape de la Vuelta, c'était exactement la même chose. C'était un chrono un peu particulier, à mi-chemin entre le prologue ou le vrai chrono, 9 km seulement, très technique, dangereux, on a vu les images, beaucoup de virages, des portion où il fallait vraiment engager. Voilà, c'est typiquement le genre de parcours, tu l'as dit Georges, où il faut prendre le risque de perdre pour pouvoir gagner. Lui, il aurait très bien pu se dire la Vuelta, ça dure 3 semaines, je joue le classement général, je fais un chrono propre sans prendre trop de risques. J'ai de toute façon largement de la marge pour aller gagner le classement général. Mais non, lui, il est allé chercher la victoire pour 9 centièmes. Il a pris tous les risques, même s'il connaît bien le parcours. Il faut quand même oser se lancer à ces vitesses-là dans les virages pour prendre le maillot de leader. Et cette victoire, justement, ça lui offre la possibilité de porter le maillot rouge, éventuellement du début à la fin de la Vuelta, mais ça montre surtout qu'il continue de progresser dans le chrono. Tu me parlais du chrono, je t'ai dit que j'allais y venir, je ne peux pas faire une chronique sans parler de chrono.
Oui, t'inquiète, on a bien compris.
Bien sûr. Et finalement, le chrono de cette première étape de la Vuelta, ça résume assez bien Pogacar, c'est un gagnant, il ne sait pas faire autrement, et il domine tellement son sport qu'il doit forcément trouver de nouvelles choses à aller chercher. Là, c'est un prologue sur un grand tour, pour rester motivé, pour continuer à progresser. Et les défis, il en a encore, on a parlé de Paris-Roubaix, c'est le dernier monument qui lui manque. Il en a fait un objectif majeur. Son deuxième objectif, ça va être, il a 5 Tours de France, mais d'en gagner un 6e pour être le seul au sommet de l'histoire du Tour. Mais moi, personnellement, il y a un défi que j'aimerais le voir tenter, c'est de devenir champion du monde du chrono. Parce que Pogacar, on sait, il est très fort sur les chronos dans les grands tours. Il continue de progresser, on l'a dit. Sur les chronos d'un jour, notamment les championnats du monde, il y a quand même souvent plus fort que lui. Et ce quelqu'un qui est souvent plus fort que lui, c'est évidemment Remco Evenepoel.
Il lui a mis un éclat l'année dernière à Kigali.
Il l'a même rattrapé à Kigali. Et ce qui est intéressant avec sa victoire sur la première étape du Tour d'Espagne, c'est que finalement c'est un chrono d'un jour. Tout le monde arrive frais, tout le monde a les mêmes jambes sur la première étape d'un chrono et d'un grand tour. Et Tadej Pogacar prouve qu'il a les qualités pour gagner un chrono sur les courses d'un jour. Et comme je suis un amoureux du chrono, moi je veux voir jusqu'où Tadej Pogacar est capable de progresser dans cette discipline et d'aller. J'aimerais voir Tadej Pogacar préparer le championnat du monde chrono et en faire un de ses objectifs de fin de saison. Ce que je veux voir, c'est Tadej Pogacar une fois être le meilleur rouleur du monde sur une journée, en gros être champion du monde. Et pourquoi pas dès 2027 sur les championnats du monde en France à Sallanches, qu'on annonce en tout cas la course en ligne très difficile, le chrono certainement aussi, parce qu'au fond ce qui est le plus intéressant avec Tadej Pogacar, c'est qu'il continue à aller chercher ses limites et à les repousser. On aime ou on l'aime pas, mais en tout cas il continue à créer des choses, et tant qu'il aura des nouveaux défis, qu'on continuera à avoir un coureur qui, même après avoir quasiment tout gagné, trouve encore le moyen de prendre des risques pour aller gagner un chrono sur la Vuelta de seulement 9 km. Donc chapeau Tadej.
Bon, en fait, je sais pas quoi penser, Jérôme, parce que je me dis, mais qu'est-ce que tu veux encore lui donner comme idée? Il va aller gagner partout.
ouais, mais il manquait les chronos.
Bien sûr.
Je veux le voir au championnat du monde, vraiment préparé, sans penser à la course en ligne. Je veux voir ce qu'il est capable de faire en ayant ça comme objectif.
Mais tu veux
bien qu'on lui trouve des trucs.
Oui, bien sûr.
Pogacar, il va remporter la Vuelta.
Tu veux le voir en arc-en-ciel tout le temps, en fait. Tu veux jamais le voir sans. C'est un défi à sa hauteur.
On veut le voir champion olympique aussi.
Ah oui,
2028, exact.
Pierre, moi, c'est le défi que j'avais proposé à Mathieu Van Der Poel, pour qu'il ait tous les arcs-en-ciel du vélo.
Du jeu, ouais.
Et qui, là, serait un truc vraiment dingue. Pour Tadej, pourquoi pas aussi. Je ne suis pas sûr que ça l'amuse autant que ça. C'est un circuit de 9 km avec plein de virages comme celui qu'on a vu. C'est marrant, en fait.
Oui.
C'est ludique, comme contre la montre. 55 bornes pour les championnats du monde, c'est un peu moins ludique quand même.
Johan ?
Non, moi, pour moi, c'est, ça doit pas devenir un objectif pour Pogacar. Je pense que gagner Paris-Roubaix, ce sera l'objectif principal et là, il aura terminé le jeu.
Il peut en avoir plus.
Être champion du monde, en fait, la hiérarchie s'inverse. C'est-à-dire que sur les courses normales, sur les grands tours, on a Vingegaard et Evenepoel qui tombent sur le meilleur coureur de tous les temps avec Merckx et c'est Tadej Pogacar. Pour le coup, Tadej Pogacar, il prend Remco Evenepoel en pleine poire et c'est certainement le meilleur rouleur de tous les temps. Donc pour moi, ça doit pas devenir un objectif pour lui. Et Pierre a raison. Le contre-la-montre de Monaco, il était spécial. Et là où moi je suis admiratif de Pogacar, c'est on en parle peu, on parle beaucoup de sa force physique et que c'est le meilleur du monde évidemment, mais techniquement c'est un monstre aussi. Tadej Pogacar, on l'a vu dans les descentes sur le Tourmalet, notamment pour ce Tour de France. Mais là, ce qu'il fait dans les rues de Monaco, c'est comme ça qu'il va gagner pour 9 petits centièmes. Mais la marge, elle est encore trop loin par rapport à Remco Evenepoel.
Pile, ça t'exciterait?
Bah après, surtout, il y a un élément, et ça te permettra de faire la transition, c'est que je regardais tout à l'heure le parcours, toute la carrière de Alaphilippe. Je comparais notamment avec Peter Sagan, et il y a une courbe qui est intéressante, elle est la même pour ces deux coureurs-là, c'est qu'à 27 ans, ça commence à descendre, les performances. Et donc, Tadej Pogacar, il a 27 ans, donc on peut lui mettre tous les objectifs qu'on veut. Logiquement, la logique physique fait que ça va descendre tranquillement. Donc, après cet objectif-là de chrono, bon, c'est le truc de Jérôme Coppel.
Non, mais Jérôme, tu sais, moi, je vais aller dans ton sens, tu sais pourquoi? Parce que dans notre discussion, ça m'a fait penser à ça. C'est que pourquoi ce sera un objectif pour Pogacar? C'est justement parce qu'il a été humilié sur ce truc-là.
Oui.
Il a été humilié et il marche à ça, Pogacar. Ah ouais, je me suis fait casser la gueule. J'ai été humilié devant le monde entier par Remco. Je vais bosser ce truc-là. Vous allez voir, je vais l'éclater.
Mais bien sûr.
Je ne sais pas s'il arrivera, mais il marche un peu à ça.
Mais bien sûr, Paris-Roubaix lui résiste, il veut y aller. Les championnats du monde chrono, c'est juste, bien sûr qu'il n'en fera peut-être jamais un objectif. Mais Johan, tu parlais de Paris-Roubaix. Paris-Roubaix, c'est au mois d'avril. Il a largement le temps de repréparer les championnats du monde.
Oui, et avoir des qualités de rouleur, ça ne t'empêche pas de gagner Paris-Roubaix. Au contraire.
Mais non, au contraire. Si un parcours lui convient bien, vraiment difficile, alors je ne parle pas d'un chrono vraiment chantier, mais un peu difficile, lui, ce n'est pas un problème d'aller faire 50 kills de chrono s'il le prépare un petit peu. Et là, par rapport à Remco Evenepoel, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et je pense que c'est un truc à cocher pour lui. Tu as été champion du monde sur route, et champion du monde chrono, ça a quand même de la gueule. Et je pense qu'en fin de saison, c'est vraiment un truc, si le parcours lui convient, qui pourrait l'intéresser quand même.
Bon, Poggi, avec de nouvelles idées proposées par le peloton RMC, alors que vous avez vu, il a de nouvelles idées tous les jours, hein, notamment quand il décide de suivre Van Aert et de ne pas le relayer. Voilà, j'ai dit sur la nouvelle idée de Pogacar, je lance Van Aert et je ne le relaie pas, par exemple. Et après, j'essaie de jouer le sprint et je fais presque aussi bien que Pedersen qui l'a que pour ça. Donc voilà. Pour Poggi qui, je suis sûr, va continuer de nous donner des idées pendant la semaine écoulée. On en reparlera évidemment dans le peloton RMC. Allez les amis, on parle de Julien Alaphilippe évidemment qui a tiré sa révérence à Alaphilippe sur RMC, c'était ça.
Il lui reste 20 secondes maintenant pour gagner l'étape, ça sera sans problème. Grande avance pour Julien Alaphilippe qui va gagner l'étape avec 14 secondes sur Geraint Thomas. C'est Julien Alaphilippe, le garçon, le français qui règne actuellement sur le peloton, qui fait signe. Oulalalala, qu'est-ce que j'ai fait encore aujourd'hui? Je peux aller remporter cette première étape entre Brest et Landerneau. Victoire de Julien Alaphilippe à la Fossoloup.
C'est pour toi Julien, allez, tu peux lever les bras, tu peux sourire. Champion du monde Julien Alaphilippe. Champion du monde dans quelques instants, oui, oui, le poing serré, le poing levé, Julien Alaphilippe qui se retourne une dernière fois. C'est un virtuose, c'est un floré classé, c'est un funambule, un génie du vélo, un génie du vélo. Et oui, il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Julien Alaphilippe qui harangue la foule, champion du monde pour la deuxième année d'affilée. C'est monstrueux, on ne va pas s'en remettre. Julien Alaphilippe, champion du monde.
C'est vrai qu'à cause de lui, on a beaucoup passé la Marseillaise hein, sur RMC, ou grâce à lui plutôt. Julien Alaphilippe, effectivement, le plus grand palmarès du cyclisme français au 21e siècle. Les deux titres des champions du monde, vous les avez entendus. La victoire à Milan-San Remo, les victoires d'étape sur les trois grands tours, avec six succès sur la grande boucle, où il a connu 18 jours en jaune. Donc ce fameux inoubliable été 2019, bien sûr. À 34 ans, donc il arrête parce qu'il n'arrive plus à rivaliser sur le vélo. Ça, c'est un fait. On l'a tous vu sur la dernière grande boucle. Notamment, mais aussi parce qu'il s'éclate peut-être plus vraiment dans ce cyclisme-là. Je vais le citer hein, dans le communiqué qui a été envoyé ce week-end pour officialiser sa retraite. Voilà ce qu'il dit, Julien. J'ai toujours couru à l'instinct, attaqué quand mes jambes me brûlaient, pas ce que les chiffres me disaient de faire. J'ai couru avec passion, avec les erreurs que cela implique. Je préfère perdre 10 fois en attaquant que de gagner une seule fois parce que la voiture de l'équipe m'a dicté ma conduite. Je pense qu'il n'y a pas plus Julien que ce qu'il nous a dit là. Ça le définit quand même assez bien et on comprend bien, même si vous ne l'avez pas assez connu, ce qu'il est ou ce qu'il a été. Qu'est-ce que nous dit sa retraite ? C'est la première question qu'on va se poser. Donc on se disait, est-ce que la retraite d'Alaphilippe est la fin d'une certaine idée du cyclisme ? Alors déjà, d'abord, est-ce que vous comprenez sa décision ? Jérôme, tu comprends la décision de Julien ?
Oui, je comprends sa décision. T'as dit la carrière qu'il a fait. Quand t'as été au niveau où il a été et quand tu subis comme tu subis, c'est difficile de continuer le vélo, même si t'aimes le vélo, même s'il avait encore un an de contrat l'année prochaine. Quand t'es un gagnant comme lui, ce que tu veux, c'est peser sur la course. Et il faisait le job comme avant, il faisait tout comme avant, mais il y a des trucs qu'on fait que ça marchait plus cette année et que mentalement ça devient plus dur. Donc je comprends sa retraite. On aurait tous aimé voir une retraite au top de sa forme en gagnant une étape sur le Tour ou en gagnant une belle classique. C'est pas le cas, mais je comprends tout à fait son choix de prendre sa retraite parce que le vélo est un sport tellement difficile. Quand ça marche, c'est très bien, mais quand ça devient vraiment trop dur et que tu n'arrives plus à peser sur la course, ça devient vraiment un job ultra difficile et mentalement c'est très très dur quand tu as été en haut et que tu te retrouve en bas.
Pierre-Yves, tu as accompagné au commentaire tous ces moments de la carrière de Julien. C'est quoi ça nous faisait souffrir un peu, ça nous mettait un peu mal à l'aise de le voir Julien ces derniers jours aussi sur le Tour de France que vous avez commenté.
Ah oui, complètement, c'était triste, c'était vraiment triste de le voir à la peine comme ça, même au moment des interviews, il n'avait pas envie de parler, on le sentait. Et quand on connaît la personnalité de ce garçon, quand on le voyait pendant ses grandes années, toujours la banane, sourire, venir nous saluer, toujours vraiment enjoué, et là c'était pas du tout Julien.
Alors comme moi, si j'ai un truc s'était cassé en fait.
Oh complètement. Et j'ai juste un petit regret. J'aurais préféré qu'il puisse faire ses adieux avec du public. Alors, il a fait ce tour là dans Paris, mais il ne l'avait pas annoncé avant, donc on ne savait pas trop. J'aurais bien voulu qu'il soit sur une dernière course pour que vraiment le public le fête. Et il l'aurait mérité, je trouve.
Il l'avait laissé sous-entendre. L'arrivée à l'Alpe d'Huez,
on avait bien compris, on le reverrait pas.
On le reverrait pas sur le tour.
Sur le tour.
Oui. Mais c'est pour ça que c'était un au revoir, un adieu au tour quand même à Montmartre. Quand on voit les images, c'est vrai que c'était absolument dingue. Mais je suis d'accord avec toi. Après, Pierre-Yves, j'aurais préféré qu'il l'annonce avant et qu'on ait ce qu'on a vécu pour Pinot, ce qu'on a vécu pour Bardet, ce qu'on a vécu pour cette génération-là, finalement, parce que c'est cette génération-là qui s'éteint avec Julien Alaphilippe. On aurait préféré des adieux. Dieu, parce que lui, il aurait eu son virage, il aurait eu une ambiance absolument incroyable. La course se serait arrêtée, forcément. Mais c'est vrai que c'est une émotion intense parce que c'est le coureur d'une génération, c'est le plus grand coureur français que j'ai pu voir de mes yeux réellement. Parce que tous les autres, il est surdominé, hein, il a surdominé cette génération. C'était à son époque le meilleur coureur du monde même. Donc voilà, un immense respect pour ce qu'il a fait. Et je rejoins mes petits camarades, c'est quand tu t'amuses plus sur le vélo. Et Julien Alaphilippe, c'était ça, il s'amusait sur le vélo, il avait besoin de jouer sur le vélo, autant arrêter parce que sinon c'est triste à voir.
Parce qu'on le voyait plus jouer, c'est vrai qu'on en parlait du Tour là, mais ça fait quelques temps, il y a eu la victoire l'année dernière au Canada, où d'ailleurs il gagne pas forcément Alaphilippe d'ailleurs.
Exactement, hein.
Il joue un peu en suçant les roues, quoi, il arrive à bien
sortir. Oui, mais on était content de voir gagner.
Oui, bien sûr, on était content de le voir gagner, mais c'était déjà un peu le champ du cygne, Pierre.
En fait, le champ du cygne, moi ce que je retiens aussi, c'est que il dure depuis longtemps. Patrick Lefévéré le disait, déjà les deux dernières années à la Quick-Step, c'était déjà pas vraiment ça. Il y a déjà eu en fait cette étape un peu, cette étape finale où tout le monde lui a rendu hommage, c'était l'étape sur le Giro 2024 déjà, où il était encore à la Soudal Quick-Step, où effectivement... c'est pas qu'on l'a laissé gagner, mais il a profité de l'aide de Maestri, enfin qui l'a aidé aussi parce que c'était Julien Alaphilippe, parce que c'était un personnage et un palmarès, et c'était un peu ça déjà et c'était il y a deux ans, donc c'est un peu long ces deux années Tudor qui étaient allez je me relance, j'essaye de refaire quelque chose.
Oui, c'est vrai, en fait il s'est pas passé grand chose chez Tudor.
Voilà. Non. Et en fait à part effectivement ce joli coup à Québec où il profite des circonstances, bravo, mais bon c'était pas voulu tout le reste c'est long et c'est oui, dur c'est... et c'est pénible pour lui. Et donc et on comprend et on comprend que ça aurait pu arriver plus tôt aussi.
Mais c'était aussi cette victoire, le Alaphilippe malin. Et je trouve que ça va bien avec lui. C'est vraiment un malin loulou. c'est vraiment tout ça, sa carrière aussi. C'est un garçon qui savait, qui a vraiment la science de la course aussi. Et puis là, il l'a fait avec ce qui lui restait dans les jambes sur cette fin de carrière. Mais je vais même plus loin que toi, Pierre. Parce que quand on regarde les stats, c'est assez incroyable. Mais il y a deux très, très grandes années, 2018-2019. 12 victoires sur chaque année, ça fait 24 sur 45 victoires. C'est-à-dire qu'en deux années, il y a la moitié de ces victoires qui sont là. Et si on regarde un peu avant, un peu après, bah, il y a 3-4 victoires par année. Mais ces deux grandes années, elles sont...
Il a
deux championnats du monde.
Il y a deux championnats du monde, mais c'est là.
Oui.
C'est là.
Ouais, oui, mais c'est une course, c'est un jour. Quoi. Ouais.
Mais ouais. C'est vrai qu'il y a 4 ans, dont 2 ans, mais 4 ans très haut niveau... Mais après, c'est plus dur.
Tiens, je voudrais qu'on écoute Kevin Morand et sur la Vuelta, évidemment. Cette information est tombée juste au moment du grand départ. Donc, il a un petit peu traîné son micro auprès des coureurs français. Écoutez, Julien Bernard, qui a été un de ses coéquipiers en championnat du monde, hein, d'ailleurs, aujourd'hui coureur chez Leader Trek, parler de cette décision de Julien.
J'ai fait ma première course de vélo avec lui à côté de moi. C'est une grande partie de ma carrière sportive. Qu'il parte, ça fait toujours une émotion. Je sais qu'il a beaucoup apporté au cyclisme français, aux gens. Il a donné beaucoup d'émotions et forcément, ça rend un petit peu triste tout le monde. C'est la fin d'une ère. Je pense qu'il a su guider quand même beaucoup de monde de la nouvelle génération. Il a inspiré beaucoup de mecs. Et si on a des Paul Sexas, si on a des coureurs comme ça, c'est sans doute grâce à lui. Donc je pense qu'on peut vraiment le remercier et lui faire l'hommage qu'il mérite.
C'est vrai. Et on a même vu Mathieu Van Der Poel lui mettre un message sur les réseaux en disant « Tu fais partie des coureurs qui m'ont inspiré et qui ont peut-être donné des idées à cette génération d'attaquants que l'on voit aujourd'hui. » Alors moi, je voulais qu'on revienne justement, et c'est un peu le thème de notre podcast aujourd'hui, sur ce qu'il dit là, la fin d'une ère, la fin de quelque chose. On l'a beaucoup entendu cette semaine, depuis l'annonce de sa retraite. Est-ce que le romantisme est mort avec Julien Alaphilippe? Est-ce que c'était un peu le dernier des héros un peu bordéliques, quoi, en fait, dans le peloton? Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez? Pierre, je crois que t'es pas tout à fait d'accord avec ça, avec ce qu'on a beaucoup entendu.
Non, tu veux laisser des gens qui sont d'accord avec
non,
ça?
Non, mais d'abord, tiens, agite le cocotier, comme tu sais bien le faire.
Non, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que, pour deux raisons. D'abord, des romantiques, des instinctifs, des mecs qui vont partir à l'abordage sans vraiment réfléchir. Il y en avait avant, il y en aura après. On les connaît... On a dit aussi une fois que Contador allait arrêter que c'était la fin des coureurs de grand tour, pareil, qui couraient à l'instinct. On se rend compte que ce n'est pas le cas. Tu as cité Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, quand il attaque à Montmartre, ce n'était pas gagné. Hein. S'il n'a pas Pogacar avec lui, il ne va jamais au bout. Ça fait partie de ces coureurs qui sont capables de le faire. Et ce que je retiens, c'est qu'Alaphilippe, ses plus grandes victoires, c'est parce qu'il avait les jambes pour le faire. C'est parce que comme Van Der Poel à Montmartre, il avait les jambes pour éparpiller tout le monde. Quand il gagne à Louvain la course qu'il ne doit pas gagner parce qu'il a toute la Belgique contre lui, parce que Van Aert est le grand favori, parce que Remco fait tout le tempo pour Van Aert, il attaque une fois, deux fois, trois fois, et c'est la quatrième fois qu'il fait sauter. Il faut les avoir les jambes pour attaquer quatre fois, tu ne fais pas ça comme ça parce que ça te prend et tu dis « Ah, je vais tenter le coup ». Non, tu ne tentes pas le coup quand tu attaques quatre fois. Pareil pour Imola. Imola, il attaque dans la dernière montée et tu me dis « Est-ce qu'on reverra ça avant ?» Plus tard, Imola, souvenez-vous, il y a un gars qui est sorti à 42 km de l'arrivée et qui a essayé de partir de loin. Ce gars, c'est Pogacar. Bon, il était encore un peu tendre, mais maintenant, quand Pogacar il part à 42 km, généralement, tu ne le revois plus. Donc, c'est effectivement Alaphilippe, c'est un mec effectivement qui était à l'instinct. Un mec
parce que ça va au-delà du vélo aussi sur sa personnalité.
C'était aussi des jambes de dingue. C'était aussi le meilleur puncher du monde à une époque et qui pouvait se permettre ce genre d'attaque et ce genre de victoire.
Jérôme, qu'est-ce que tu en penses de ce fatalisme qu'on entend un peu? On avait Marc Madio dans les grandes gueules du sport ce week-end qui lui disait ben voilà, c'est un de ces coureurs qui regardait pas ses watts, comme on le voit trop aujourd'hui. Voilà, peut-être en gros un cyclisme déjà d'un autre temps, comme si on était passé dans une nouvelle ère maintenant où on a un peu plus sur les capteurs, mais ça existait déjà avec Alaphilippe. Ou est-ce que toi tu vois ce moment comme un romantique qui s'en va aussi?
C'est un romantique. Qui s'en va. Ouais. Bien sûr, Marc a dit dans les grandes gueules du sport, il a fait le lien avec Thibaut Pinot aussi, parce que Thibaut c'était un peu le même genre, alors pas les mêmes caractéristiques, mais voilà, le capteur de puissance, il le regardait pour s'entraîner, mais en course c'était plus les sensations, etc. Mais je pense qu'il y a une page qui se tourne avec Julien, c'est aussi pour la côté du vélo, la personnalité en fait de Julien Alaphilippe. Je ne sais pas si on retrouvera tout de suite un coureur français, je parle de ce niveau-là, avec cette personnalité-là, parce que ce n'est pas que le vélo. Pierre-Yves l'a dit, il était très malin. Pierre l'a dit, il était très fort. Donc quand tu es malin et fort sur un vélo, c'est quand même plus facile pour aller gagner des courses. Mais c'est aussi en dehors du vélo. Il y a peu de coureurs dans un peloton qui font l'unanimité partout où ils passent, même dans les équipes adverses. Donc tout le monde adore Julien Alaphilippe. Tout le monde veut être pote avec Julien Alaphilippe. Et c'était déjà le cas quand il était coureur. Maintenant, tu vas sur les réseaux sociaux, tout le monde connaît Julien Alaphilippe personnellement. Tout le monde était pote avec lui, même ceux qui lui ont sûrement jamais serré la main.
Toi, tu l'as parce connu, tu as couru avec lui.
Oui, j'ai couru avec lui. On s'envoie des messages, je ne vais pas dire qu'on est proche, mais je le connais. Mais c'est en fait ce mec, au-delà du vélo, tu as envie
d'être.
Est-ce
que tu peux nous raconter la première fois où il est rentré dans ta chambre? J'adore cette anecdote.
Ouais, non, mais en fait, tu as envie d'être copain avec lui. Oui, pour la petite anecdote, au championnat du monde en 2015, donc je ne le connaissais pas encore, Julien, moi j'étais remplaçant pour la course en ligne. Je venais de faire troisième du contre-la-montre au championnat du monde. Et voilà, je suis dans ma chambre après le massage, le protocole, etc. Et il y a un mec qui rentre dans ma chambre en marchant sur les mains, c'était Julien Alaphilippe, pour venir me féliciter. Donc il avait traversé tout le couloir de l'hôtel en marchant sur les mains. Voilà, c'est ça Julien Alaphilippe.
T'as félicité, t'as pas serré la main du coup?
Il m'a serré le pied, moi je lui ai serré le pied, mais t'as une batterie dans l'hôtel, il va te jouer pendant 30 minutes de la batterie, et voilà, c'est ça Julien Alaphilippe. En fait, t'as envie d'être son pote à lui, et puis c'est tout ce qu'il dégage. Et en fait, il était tellement naturel, c'est pour ça que Pierre-Yves disait, ça nous faisait du mal un peu sur le Tour cette année, c'est même dans les interviews, il était nature, il disait ce qu'il ressentait, ce qui lui passait par la tête, et là c'était pas du tout le cas. Donc je pense qu'une personnalité, c'est plus la personnalité de Julien Alaphilippe qui va manquer au cyclisme français, au-delà de ses résultats, parce qu'on en aura d'autres qui vont être très bons. On a déjà des Paul Sexas, on a des Léo Bizio, on en a plein d'autres qui vont être très bons, mais avec une personnalité comme Julien, ça on va pas en avoir tout de suite. Et je sais même pas si ça serait maintenant dans le cyclisme moderne autorisé d'avoir un coureur de le laisser avec sa propre personnalité. Parce que Julien, il a connu l'avant-Covid et l'après-Covid. Franchement, pendant le Covid ou l'après-Covid, après, les équipes se sont structurées, mais aussi dans la com, etc. C'est toujours un petit peu pareil. Julien Alaphilippe ne pouvait pas le mettre dans une case. Lui, il disait ce qu'il avait envie de dire. Maintenant, on sent que c'est quand même tout cadré partout. Et s'il était passé pro maintenant, je ne sais pas si on aurait eu la même personnalité.
Non, mais parce que voilà, c'est ça aussi un peu le débat sur est-ce qu'avec le départ de Julien du peloton, est-ce que ces cyclistes-là ne sont pas un peu en voie de disparition? Ce que tu disais du Covid de cette période correspond un peu à la période où Julien, après, voit ce vélo changer qui lui plaît un peu moins. Est-ce qu'il a raison de dire que voilà, il y a un changement après? Là, Jérôme en parlait. Est-ce qu'on peut moins se reconnaître dans le cyclisme post-Covid, Johan?
Non, mais
dans la façon de courir, dans la façon de voir les courses, parce que les courses chiantes, on les a. Jérôme, t'as couru à cette époque, les courses avec les Sky et tout ça, il y avait déjà les capteurs. Julien, il a couru à une époque qui était chiante aussi. Hein.
Mais il est champion du monde.
Mais il est déjà. Alors peut-être qu'il est dans une génération où c'est un peu moins généralisé, où ça arrive encore les capteurs et tout ça. C'est devenu peut-être un peu trop général maintenant.
Pour moi, ce qui a changé réellement. Et je sais pas, c'est pas du tout en lien avec le Covid, c'est juste un concours de circonstances. C'est qu'il est tombé sur une génération dorée qui a éclos à ce moment-là. Tadej Pogacar, il gagne le Tour en 2020. Et en 2021, tu le disais, Pierre, il est encore un petit peu tendre sur les championnats.
Ah, bah oui, mais du coup, cette génération, elle est pas chiante, c'est une génération d'attaquants. Pour le coup, c'est pas, les capteurs.
J'allais y venir. T'as Pogacar qui évolue à ce moment-là, t'as Van Der Poel qui évolue à ce moment-là, et t'as Van Aert qui évolue à ce moment-là, qui peuvent être les trois coureurs que je rapprocherais le plus de Julien Alaphilippe. Sauf que ces trois coureurs-là, pour moi, ils sont un petit peu plus forts que Julien Alaphilippe. Tadej Pogacar a ce côté encore. Alors, pour moi, c'est un coureur romantique, Pogacar. Sauf qu'il est tellement fort que même s'il fait une petite erreur, s'il part à 80 km de l'arrivée, il est capable de tenir. Mais bon, on l'a déjà vu sur l'Amstel notamment, se faire rattraper par Remco.
Je veux dire, il a l'ADN à la Philippe, mais il est trop écrasant sur la durée pour être considéré comme lui.
C'est ça, elle est là la différence. Il les a inspirés, ces gars-là. Il les a inspirés à attaquer, à attaquer de loin, à prendre des risques, à attaquer 2-3 fois. Pogacar, quand il attaque 3 fois sur le Tour des Flandres, c'est du Julien à la Philippe. C'est du Julien à la Philippe sur les championnats du monde, sauf qu'il est tellement fort que derrière il va gagner, il va pas se cramer, comme l'était Julien à son époque, il était le meilleur du monde pour ça. Donc pour moi c'est pas juste de dire que soit le Covid a changé Julien, soit
enfin, la période en fait, hein. Ouais, on dit le Covid pour fixer une période, mais c'est le vélo qui change.
Mais c'est le vélo qui a changé là, parce que Tadej Pogacar est arrivé et que tu as eu les plus grands coureurs de ce siècle qui sont à ce moment-là.
Pour moi, il y a un élément qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est sa relation avec Lefebvre. Et quand Lefebvre dit « Avec l'âge, vous devez prendre plus soin de vous, vous entraînez plus dur, je pense que chez lui, il y a eu trop de fêtes et trop d'alcool », ce sont des phrases très très dures, mais qui parlent un peu de Julien. Julien, c'est un peu un coureur des années 80, 90, ouais, où il avait besoin aussi d'exploser à côté, de se faire plaisir et pas peser sa bouffe le matin. Voilà, or, aujourd'hui, c'est ça le vélo d'aujourd'hui.
C'est
toute la prépa, c'est les stages, c'est tout ça. Et je pense que ça, ça lui correspond pas du tout.
Et il y a quelque chose qui a changé aussi pour Julien et qui a déterminé sa fin de carrière, bah c'est 2022. C'est un soleil sur l'estradé et cette chute à Liège. Oui. Et là, c'était terminé. On n'a plus Julien qu'on a vécu. Donc ça correspond. Il y a tout un concours de circonstances qui fait que Julien ne pouvait plus rivaliser après avec les montées en puissance des autres.
Non, mais en tout cas, plus que sur son cas personnel, c'est sur ce que devient le vélo, en fait, justement. Ouais. Et arrive à créer comme champion instinctif ou pas, de par le nouvel environnement qui est plus restrictif, comme vous le dites. On fait attention à ce qu'on mange un peu plus, on fait attention au matériel un peu plus, on fait attention à ses watts un peu plus. Jérôme.
Non, mais je pense que c'est ça. Et au-delà de ces chutes ou de tout ce qui a pu se passer, je pense que Julien, dans tous les cas, il n'allait pas s'y retrouver dans le cyclisme maintenant. Julien, il en a rien à foutre le soir à table de savoir le Pierre-Paul Jacques, le record de puissance qu'il a fait sur 5 secondes, 2 minutes ou 3 minutes. Lui, ce qu'il veut parler, c'est d'autres choses. C'est un peu comme a dit Pierre-Yves. Alors peut-être qu'il n'a pas tout bien fait, mais c'est
y en
de
a
s'ouvrir une bière. C'est
ça
de s'ouvrir une bière le soir. Bah, il y en a de moins en moins. Parce que nous, on utilisait. Alors, époque, mais les capteurs de puissance, c'est arrivé 2006-2007 à peu près. Mais quand tu étais gamin, quand tu étais cadet, quand tu étais junior, même si tu as fait les championnats du monde, moi j'ai fait les championnats du monde junior ou mes premières années espoir, le capteur de puissance c'était juste en stage. Le reste du temps, on parlait pas de puissance, on parlait pas de nourriture, on montait sur notre vélo, on faisait les entraînements que l'entraîneur nous disait de faire et c'était tout. Maintenant, tu parles, moi j'en vois passer tout le temps. Tu parles avec des minimes, ils ont 11 ans, ils ont 12 ans, ils parlent déjà d'acheter un capteur de puissance, machin. Donc en fait, c'est plus le cyclisme avant.
Mais c'est plus le cyclisme
monde...
plaisir. Est-ce que c'est abusé
plaisir.
De dire comme ça?
Mais bien sûr que c'est abusé. C'est... Alors, si tu as connu que ça, tu es Paul Sexas, par exemple, on va prendre l'exemple de Paul Sexas, il a connu que ça, de peser sa bouffe, le capteur de puissance, etc.
Oui, donc lui, le plaisir, il le trouve là-dedans,
cheval,
peut-être.
Bien sûr, quand tu as été à cheval entre deux générations ou deux périodes où c'était avant Covid, Covid, je ne sais pas, c'est le bon mot, mais en tout cas 2018-2019, un peu plus freestyle, tu allais faire tes 6 heures de vélo, tu t'arrêtais boire un café et tu terminais ta sortie. Maintenant, je vais vous donner un exemple parce que ce n'est pas pour Julien lui-même. Un autre coureur qui était chez Tudor, à l'ancienne, je vais le citer parce qu'il s'en fiche, c'est Sébastien Reichenbach qui a arrêté sa carrière il n'y a pas très longtemps, qui était le lieutenant numéro 1 de Thibaut Pinot. Mmh. Quand il est arrivé chez Tudor, il va faire ses 6 heures de vélo chez lui ici dans la campagne suisse. Au bout de 3 heures, il s'arrête pour boire un café. Il rentre le soir, l'entraîneur, il dit « Qu'est-ce que tu as fait au bout de 3 heures? Pourquoi il y a une pause dans ton entraînement ?» Il dit « Je me suis arrêté boire un café. » Il dit « Mais en course, tu t'arrêtes pas boire un café quand la course dure 6 heures.
Ah ouais.
Donc c'est fini, tu t'arrêtes plus. » Et ben voilà, le cyclisme, c'est devenu comme ça maintenant. C'est-à-dire, tu es fliqué. Et, alors, peut-être très bien parce que ça permet d'avoir des bonnes performances, de progresser, etc. Je dis pas qu'il faut être complètement freestyle, mais c'est pas le cyclisme que Julien aime, ça. Et Thibaut Pinot, c'était pareil. Et d'autres aussi.
Mais donc,
se balader avec son vélo. C'était faire du vélo. Le faire sérieusement, mais en prenant du plaisir.
En ça, tu es d'accord que c'est symboliquement un garçon qui peut témoigner d'une certaine fin d'une certaine idée du cyclisme qui est un peu l'idée de notre podcast
bien en tout cas, Jérôme. Oui. Mais bien sûr, et typiquement moi j'ai pas connu cette bascule de génération de mentalité, parce que quand j'ai arrêté ma carrière c'était le début des nutritionnistes etc, mais moi j'aurais jamais pu faire, alors déjà que j'aimais pas trop le vélo à la base, si en plus fallait que je pèse toute ma bouffe, que je rende des comptes à tout le monde, que je m'arrête pas boire un café quand je vais faire 6 ou 7 heures de vélo, voilà, c'était terminé. C'est ton boulot plaisir, entre guillemets, ça devient le bagne, quoi. Moi, je pouvais pas concevoir de faire du vélo comme ça. Donc, moi, je suis beaucoup plus petit niveau que Julien Alaphilippe, mais j'aurais pas pu prendre du plaisir dans ce contexte-là, avoir l'impression d'être fliqué de partout. Ça aurait pas été mon vélo non plus.
Je vous donne une anecdote. J'étais à l'hôtel avec des coureurs pendant le Tour du Limousin par hasard. Il y avait deux équipes. Et au moment du repas, donc il y a les grandes plâtrées de riz pour les coureurs et du poulet. Voilà. Et ça, c'était tous les jours. Poulet, riz et un petit peu de pâte. Et l'équipe belge a dit, est-ce qu'on peut avoir une assiette de frites? Mais en fait, ce n'était pas une assiette de frites chacun. Hein. C'était une petite assiette qu'ils se sont partagées.
Ah ouais, ils ont débordé. Là, ils ont fait n'importe quoi.
Ouais, en plus, j'espère qu'ils ne nous écoutent pas du côté des directeurs sportifs. Mais...
Tu le payes toute la saison, ça, derrière.
C'est terrible quand même.
Non, mais en fait, est-ce qu'on peut encore associer cyclisme de haut niveau et plaisir naïf, en fait, Pierre?
Mais c'est le cas avec tous les sports qui ont ce degré d'intensité. Et
oui, c'est pas que le vélo.
On le sait maintenant qu'effectivement, il y a tout ce recours aux data qui vont te permettre de suivre ta progression, mais on le voit aussi dans le foot, on le voit aussi dans le rugby, ce qui est pourtant un peu antinomique. On le voit dans plein de sports. Donc je pense que cette donnée-là, le fait de pouvoir traquer, de pouvoir avoir des data, elle n'est même pas que dans le sport, elle est dans aussi un certain nombre de domaines du monde du travail. Donc je pense que c'est plutôt une évolution un peu plus globale. Après, c'est vrai que dans le vélo...
L'efficacité est devenue plus importante que la notion de plaisir, peut-être.
Voilà. Et donc, dans le vélo, c'est encore plus... prégnant parce que vous avez des données tout le temps, et que c'est même une course à ça dans le monde amateur.
Non, mais en fait, Marc Madiot disait ce week-end, c'est un des derniers forçats de la route. En fait, avec l'image un peu... romantique que ça implique dans le monde du vélo, c'est on se fait mal au corps, mais on le fait parce qu'on a envie de le faire, en fait. Parce qu'on a envie de le faire et qu'il y a une certaine idée romanesque aussi, la façon de gagner, d'aller se battre.
Oui, alors là, en fait, pour moi, Julien Alaphilippe, s'il est aussi populaire et s'il est aussi... si sa retraite fait autant quelque chose à tout le monde et à nous en premier lieu, c'est parce qu'il cumule deux choses. C'est autant un gagnant magnifique, avec des victoires et tu l'as rappelé, le plus beau palmarès du cyclisme français au XXIe siècle, qu'un perdant magnifique, qui a fait des erreurs monumentales, qui a effectivement exposé ses faiblesses pendant ce Tour de France-là, pendant ces deux années chez Tudor. Mais voilà, on l'a vu avoir mal, on l'a vu se louper, on l'a vu faire des bêtises. On pense tous à l'arrivée à Liège où il lève les bras.
Il doit gagner, il fait deux.
Non, au final, il fait 5.
Il fait 5, ouais, t'as raison.
Son sprint n'est pas droit, du coup, il est déclassé. mais oui, il lève les bras trop tôt, du coup, Roglic le passe, sachant qu'il aurait été déclassé de toute façon. Mais c'est l'image, en fait, du gars qui...
En fait, on s'attache plus au champion imparfait.
Voilà,
en fait.
Il a les deux, en fait. Il a le côté perdant magnifique et le côté gagnant magnifique. Dans les deux cas, le mot important, ça reste magnifique, parce que c'est quand même ça, effectivement, il y a cette flamboyance-là. Qui paraît antinomique avec le monde des compteurs, même si je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. Mais il y a cette flamboyance-là qui est ce qui caractérisera le plus sur sa carrière cycliste.
Magnifique, flamboyant, imparfait. C'est pour ça qu'il a eu peut-être ce lien charnel, parce que les coureurs qui échouent aussi, ça nous donne aussi des idées sur ce qu'est la vie. Finalement, parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Et quand c'est trop parfait, aujourd'hui, il y a une telle recherche de la perfection. En fait, il y a de moins en moins de marge justement pour ce qui doit sortir un peu du cadre. Est-ce que ce cyclisme-là, Pierre-Yves, on commence à le voir quand même. On entend de plus en plus parler de termes de burn-out, des jeunes coureurs avec les stages à répétition. Ça nous dit ça aussi, la retraite d'Alaphilippe. Ce monde-là, il commence à être un peu trop usant pour nous dans ce oui. cadre-là.
Oui, oui, c'est sûr. Il y a un changement aussi de personnalité. Il ne faut pas oublier qu'Alaphilippe, quand il a 20, 21 ans, il commence à avoir des premiers résultats. Mais c'est que ça, c'est 18, c'est 19. Donc il y a aussi un décalage dans les âges qu'on voit de plus en plus. Les garçons arrivent beaucoup plus tôt à maturité, donc vont sans doute se lasser aussi un peu plus. On a eu l'occasion d'en parler souvent par tout ce que ça demande, qu'on vient de décrire. Mais Alaphilippe, c'est aussi, quand tu dis on s'y est attaché, c'est par ses courses, il gagne, il perd, voilà, c'est le perdant magnifique. Mais c'est aussi, je reviens quand même sur sa personnalité. J'ai relu un papier de notre confrère Pierre Carré qui date de 2007, donc juste avant son premier Tour de France, où il disait « Moi, j'ai envie d'une chose, c'est rendre les gens heureux ». Il a réussi dans ça. Mais avoir cette envie-là quand on est un jeune coureur, c'est quand même assez incroyable de dire ça. Et ça aussi, c'est vraiment du romantisme. Et il réussit derrière. Et c'est aussi son parcours qui est rappelé à ce moment-là. Il vient quand même d'un milieu qui est pas très riche, on l'a dit, le milieu de la musique, le milieu un peu populaire. Avec son frère, ils avaient un vélo pour faire du cyclocross, donc il y en avait un qui faisait la première course, et puis la deuxième course allait démarrer, on changeait la hauteur de selle et de guidon. Mais tout ça, c'est magnifique, c'est le vélo, ça, c'est le vélo populaire, c'est le vélo de Marc Madiot, c'est le vélo de la nostalgie. Donc forcément, on s'y attache. Maintenant, je ne suis pas certain que ça n'arrive pas encore. Il y aura des belles histoires, il y aura d'autres coureurs qui seront quand même un peu dans cet esprit-là. Rien ne nous dit, on en parlera tout à l'heure, qu'un Paul Sexas ne nous fasse pas rêver par un vélo qui soit un petit peu instinctif.
Mais est-ce qu'ils seront encouragés, en fait, c'est ça? Est-ce que dans les staffs, aujourd'hui, on encourage encore ce genre de coureurs, en fait, à sortir du cadre, Jérôme?
Alors, sortir du cadre, tu dis sportivement ou extra...
Exprime-toi, en fait, en tout, en fait. On te laisse t'exprimer, un terrain d'expression, une liberté d'expression sur le vélo et en dehors.
Sur le vélo, j'espère. J'espère qu'ils ont encore la liberté de, même s'il y a un plan et un briefing au départ dans le bus avec ce qui devrait se passer, une stratégie, etc., j'espère qu'il y a quand même un truc un peu instinctif où le coureur, s'il se sent bien et qu'au lieu d'attaquer à 12 km de l'arrivée, il va attaquer à 16, qu'on ne va pas lui taper sur les doigts.
Et je dis ça, j'exclus Pogacar et dire Van Aert et Van Der Poel de l'équation.
Non, mais tu vois, là, je pensais à Paul Sexas. J'avais en tête Paul Sexas, par exemple. J'espère que si prend des initiatives qui n'étaient pas vraiment définies au briefing le matin, qu'on ne va pas lui en vouloir. Parce que le vélo, ça reste quand même... Tu as l'entraînement, tu as la stratégie de départ et ça reste un truc instinctif où si tu vois une ouverture, tu y vas. Moi, je me rappelle d'un coup de bordure fait par Peter Sagan et Christopher Froome sur le Tour, une arrivée à Montpellier où ça ne doit pas du tout arriver comme ça. C'est à l'instinct Peter Sagan qui dit « Allez, on y va, on met en route ». Voilà, c'est ça aussi le vélo. Maintenant, hors vélo, dans les interviews et tout ça, bien sûr que c'est beaucoup plus cadré. On revient, c'est un peu la même chose que les capteurs de puissance, etc. Mais le média training, ça se fait pour certains dès les juniors, où ils t'apprennent déjà à communiquer, etc. Donc, je ne suis pas sûr qu'en, par contre, dans les interviews en dehors des courses, je ne suis pas sûr qu'on retrouve un Julien Alaphilippe avec une parole aussi libérée, qui peut dire ce qu'il veut, qui va faire le show à danser sur une voiture de Quickstep à la fin du tour, etc. Parce que c'était un showman.
Regarde Baptiste Westhoffer. Il a un naturel qui est un peu dans cet esprit-là.
Oui, alors tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est peut-être un des coureurs qui a été le plus populaire sur le Tour de France, justement, qu'il revient ce cyclisme romantique un peu, où il calcule pas. C'est-à-dire, tu regardes les interviews, les vidéos plutôt de Baptiste sur YouTube, c'est nature peinture. Il est dans sa chambre, il y a limite les slibards et les chaussettes qui traînent derrière quand il est en train de se filmer. Il va pas tout faire carré, il parle comme il pense, etc. Et ça plaît.
Après,
ça
on n'attend pas de lui qu'il gagne. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas une exigence de la performance.
C'est exactement ce que j'allais dire. Il est dans l'équipe qu'il est, qui est une super équipe, mais c'est pas non plus Ineos ou c'est pas non plus Visma Lease Bike, et on n'attend pas qu'il gagne ou qu'il soit maillot jaune du Tour de France, etc.
Bah, Isaac Del Toro, s'il commence à être foufou, UAE va lui dire, attends, qu'est-ce que tu fais, mon ami?
Eh ben, bien sûr, et tout de suite, il resserre un peu les boulons. Eh ben, ça va être de plus en plus comme ça. Mais en fait, c'était la personnalité de Julien. Est-ce qu'on aura d'autres personnalités comme ça? Je l'espère, mais maintenant, ils sont formatés dès très jeunes. Donc finalement, les personnalités, dès les cadets, les juniors, elles sont déjà un peu formatées pour le monde pro et rentrer dans les cases qu'on va leur demander quand ils seront dans les équipes pro. Quoi.
Pourquoi ça marchait à l'époque, pensez pour lui? Parce qu'il y avait moins de données, justement, peut-être. Alors, il était très fort. Tu l'as dit, Pierre, tout à l'heure, il avait les jambes de fou. Évidemment, c'était le coureur de sa génération. Certainement, Van Der Poel, Van Aert et Pogacar, à son époque, n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais est-ce que ça marchait aussi parce qu'il y avait moins de contrôle? C'est ça que je veux dire. Parce que c'était un peu bordélique parfois ce qu'il faisait à la Philippe. À un moment donné, il a été beaucoup plus clinique, on va dire. Mais est-ce qu'il gagne aussi de par l'époque à laquelle il était?
Je pense pas. Je pense qu'il gagne de par l'encadrement qu'il avait, qui a su. Et ça, c'est le grand talent de Lefebvre d'avoir su.
En fait, est-ce qu'on
pourrait... laisser faire pas mal de choses, même si maintenant il passe son temps à dire je l'ai recadré.
La question que ça pose, Pierre, c'est est-ce qu'il pourrait encore gagner comme ça dans le vélo d'aujourd'hui, mais comme il l'a gagné?
Moi, je pense encore une fois que et on le voit dans d'autres sports, quand tu as les jambes, quand tu as le talent, quand tu as le travail qui te permet d'arriver à un certain niveau, ta personnalité, on la laisse exprimer parce qu'en fait, on a besoin de toi. Parce qu'en fait, on a besoin, et par ailleurs, un mec comme Alaphilippe apporte énormément à son sport, apporte énormément à ses sponsors, et du coup, en fait, ça reste du pain béni, en fait, un tel personnage. Alors, effectivement, c'est pas ce type de personnage qu'on va... Parce que ça se construit pas, hein, Julien Alaphilippe, en fait. Là, t'as sa personnalité, t'as son talent, t'as ce que tu vas réussir à lui faire travailler. Mais la personnalité, tu vas pas réussir à... C'est plus facile de construire, effectivement, un coureur ordinateur où tu gommes une grande partie de la personnalité et de lui dire, ça sort pas. Mais t'as des mecs qui vont être tellement forts et que tu vas les laisser être comme ils sont.
Mais parce que tu vois, c'est intéressant, ça rejoint un peu ce que je voulais vous dire après. J'allais vous poser la question, tu dis c'est du pain béni finalement un mec comme ça. J'allais vous dire, est-ce qu'il aurait pu gagner plus? Évidemment, il aurait pu gagner plus. Est-ce qu'il aurait dû gagner plus? Je suis pas sûr.
Non, je suis pas sûr.
Parce qu'en fait, non mais...
Si, une course.
Mais est-ce qu'on s'en fout pas un peu? Parce que finalement, c'est parce qu'il a aussi été un loser magnifique, parce que des coureurs sont des losers magnifiques qu'ils sont valorisés aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait apprécié la victoire de Van Aert sur Paris-Roubaix cette année s'il n'avait pas autant perdu avant?
Ouais, non mais évidemment, est-ce qu'il aurait pu gagner
non.
Plus? Non mais ce qui va lui manquer, et c'est son plus grand regret, il l'a dit, c'est un Liège. C'est Liège qui va lui manquer.
Mais moi je m'en fous.
Mais bien sûr.
Alors, ça fait partie de son histoire.
Exactement. Mais
c'est un mec qui a tenté, qui était un peu bordélique et qui n'est pas arrivé.
C'est pour ça que je te dis, est-ce qu'il aurait pu gagner plus? Il aurait pu gagner un Liège? Est-ce qu'il aurait dû? Je sais pas. Il a tout tenté pour le faire. Il était pas loin. Quand il lève les bras trop tôt, bon, il est déclassé. Hein, il est déclassé ensuite parce que son sprint n'est pas régulier. Mais il était le plus fort. Il aurait peut-être dû le gagner. Mais moi je m'en fiche.
C'est peut-être que c'est un truc très français. Hein. C'est pour ça que Van Aert est très populaire chez nous. C'est pour ça que Poulidor a été plus populaire qu'Anquetil chez nous. C'est pour ça que Thibaut Pinot a été populaire chez nous. C'est pour ça que Jérôme Pinot...
Non, pardon. Il y a une course, Georges, qu'il aurait dû gagner. Parce que cette course-là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est quand même la course et c'est rare de réussir cet exploit où il a fait pleurer Cyril Guimard. Et le championnat du monde 2017, quand la lumière s'éteint à Bergen, je pense que cette course-là, il doit la gagner, il mérite de la gagner. Et ça aurait peut-être aussi changé d'autres choses dans son parcours. Celle-là, il n'a pas fait d'erreur, j'ai envie de dire.
Ouais, mais moi, là, j'ai une question qui va un peu plus loin même. C'est, est-ce qu'un Julien Alaphilippe, avec le caractère qu'il a maintenant, s'il était cadet ou junior maintenant, est-ce qu'il aurait sa place? Est-ce qu'il prendrait du plaisir? Est-ce qu'il arriverait à aller ne serait-ce que chez les pros avec le caractère qu'il a, la mentalité qu'il a?
Personne ne voulait de lui dans les équipes françaises en 2014.
Avant 2014, Jonathan Hiver, je suis chez Source Jason en 2011, il dit, je m'entraîne avec un gamin qui punch plus fort que moi, Jonathan Hiver. Il a gagné des étapes au Tour de Romandie, etc. Il dit, c'est un talent incroyable. Il a des petits problèmes au genou de temps en temps. C'est un talent incroyable. Stéphane Helot a dit, moi, je me suis renseigné. Il a toujours un pet de travers. Je le prends pas. Ben, il est passé entre les mailles du filet des équipes françaises, mais on l'avait déjà repéré. Mais moi, je parle pas de son niveau physique. Je veux dire, c'est, est-ce que sa mentalité, son état d'esprit colle maintenant avec ce qu'on, les jeunes coureurs de maintenant.
Tu t'interroges, cadré, est-ce que tu, non mais toi tu dis quoi? Oui ou non?
Moi je suis pas sûr, mais je suis pas sûr parce que oui, ses résultats auraient fait que peut-être il se serait rendu indispensable en équipe de France chez les pros, etc. Mais est-ce que lui aurait pris du plaisir, le petit gamin de Montluçon qui a pas trop de moyens, est-ce qu'il aurait déjà pu avoir un capteur de puissance? Est-ce que s'il avait pu en avoir un, est-ce que ça lui aurait plu de faire du vélo et de faire ces trucs très cadrés alors qu'il a que 12, 13 ou 14 ans? Je sais pas parce que est-ce que le vélo d'aujourd'hui laisse la place pour un coureur, un jeune coureur, un gamin comme Julien Alaphilippe? Je sais pas.
Bon, donc au final, tu réponds un peu à la question quand même, hein, Jérôme, qu'on se posait sur ce podcast, sur est-ce que finalement c'est la fin d'une certaine idée du cyclisme. Peut-être qu'on va. Ouais. Non, mais peut-être que, évidemment, la génération surtout qui est actuellement, c'est celle qui est juste, qui a couru avec lui ou qui arrive juste après lui. Évidemment qu'ils sont inspirés, qu'ils vont aller piocher des choses dans ce qu'a fait Julien, mais de là à vouloir être un coureur comme Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe, c'est peut-être plus possible. Effectivement, tiens, vous avez tous donné vos anecdotes. Moi, je me rappelle, il y a un souvenir qui m'a marqué. J'étais au championnat du monde de cyclisme sur route à Florence en 2013. Il était avec l'équipe de France Espoir. Conférence de presse juste avant les courses du week-end. Sylvain Chavanel venait de faire le contre-la-montre. Je crois qu'il avait fini pas loin du podium, peut-être même sur le podium. On savait que Julien allait arriver chez Quick-Step. Et il prend la parole, Julien. Alors qu'en plus, c'est même, tu sais comment ça se passe, Jérôme, les espoirs, ouais, ils parlent pas forcément. Et putain, il se dégage, il y a un truc qui se dégageait de lui. Et je me rappelle, Sylvain Chavanel a dit, ah bah toi, t'es dans mon équipe. En plus, il y a une espèce de filiation entre les deux quand même dans la façon de courir. Ouais. Toi, tu vas venir chez moi. Ah bah oui, j'ai déjà suivi. Je vais le suivre. Et quelques jours plus tard, dans le championnat du monde espoir, il fait 8 et il dynamite la course plein de fois. C'est Mohorič qui gagne. Mais déjà, alors moi, j'en avais très peu entendu parler. Déjà. En fait, il explosait, il dégageait un truc de lui, quoi. Donc, depuis le plus jeune âge. Et est-ce qu'aujourd'hui, depuis le plus jeune âge, tu peux, on va dire, transmettre un truc comme ça, un peu irrationnel, un peu instinctif? Est-ce que c'est encore possible? Ou est-ce que c'est juste en regardant les résultats et les statistiques, on se dit, putain, lui, il a des watts quand même?
Non, mais par exemple, c'est que ça, s'il y avait aussi cette façon de courir, façon de courir.
Bien sûr.
Il dégage un truc aussi, c'est que ça. C'est pas la même chose que Julien, mais il dégage un truc. Lui, c'est la sérénité, c'est la maturité, c'est un peu autre chose. Mais il a un truc spécial aussi, c'est que ça, mais différent de Julien, bien sûr.
Allez, avant de se quitter, les amis, évidemment, Julien Alaphilippe, il est bienvenu dans le peloton RMC pour s'exprimer avec nous, bien entendu. Mais on passe la flamme rouge pour le sprint final.
Le sprint final du peloton RMC.
Le sprint final du peloton RMC, vous le savez, c'est une suite de questions pour voir un petit peu qui est le meilleur. Alors pour l'instant, le meilleur, Jérôme, en moyenne, c'est toi. Depuis qu'on a installé le sprint final, et je te félicite pour ça.
Merci, bravo.
Voilà, mais bon, en même temps, t'es un peu le leader, hein, avec Jérôme Pinot. C'est un peu dur pour Jérôme Pinot. C'est un peu dur. Bon, les gars, évidemment, c'est la retraite de Julien Alaphilippe, donc on va faire un quiz à la Philippe, bien sûr, un quiz spécial. On va voir si vous êtes au niveau. Bon, première question, les amis. Question. Plusieurs réponses acceptées. Quand il finit deuxième de Liège-Bastogne-Liège en 2021 derrière Pogacar, qui complète le podium?
Oh, Bardet.
Non,
Gaudu.
Roglic. David Gaudu. Bien joué. Johan Bredov, un point. Une réponse. Combien d'étapes a-t-il gagné sur les grands tours?
6.
8.
Non, 8, Johan. Ah, Johan, il s'est dit, il y a un truc à faire.
Mais il y en a 6 sur le Tour de France, et une et une, non?
T'avais combien de jours que tu as... J'ai donné le thème hier soir. T'as révisé toute la soirée?
Non, j'ai révisé tout à l'heure.
Ah oui, d'accord.
Pas te mentir.
D'accord.
Mais c'était là, je l'ai deviné.
2-0, 0-0 pour Johan Bredov. Quel est le seul grand tour où il n'a pas été super combatif?
Vuelta.
La Vuelta.
Jérôme. Parti plus vite, Jérôme Coppel. La
je suis pas sûr qu'ils soient partis plus vite. Je pense qu'on est parti plus vite en même temps.
Largement.
Je vais te dire un truc.
Roxane Arbitre.
Jérôme est à distance.
Il a un décalage.
Vous arrivez en même temps.
Ok, c'est bon.
Il a la photo finish. Il a le bénéfice de toutes.
Comme Poggi.
Mais pourquoi je me suis entendu avant, moi?
Ah non, bon, toi. question à une seule réponse possible. Il faut que ce soit parfaitement exact. Quand il arrive dans le World Tour, dans l'équipe de Patrick Lefebvre en 2014, quel est le nom exact de la formation?
Oula. Omega Pharma Quick Step.
Bien, Jean-Pierre. On rappelle, c'était le nom le plus facile à commenter à l'époque. ça fait 2-2, toujours 0 pour Pierre-Yves et pour Pierre. En 2010, ah, ça, elle est chaude, hein, je vous préviens. Quand je l'ai faite, je me suis dit... En 2018, il gagne la Classica San Sebastian. Vous vous souvenez, c'était l'un de ses premiers grands succès.
Ouais.
Toujours très bien réalisé d'ailleurs. Hein. Je me rappelle qu'on avait vomi en regardant la course. Donnez-moi un coureur qui était sur le podium avec lui.
Oh, c'est quand même 2018.
Et il y avait un Français.
On a droit à plusieurs réponses ou quoi ?
On aura plusieurs réponses.
Anthony Roux.
Anthony Roux.
Mais attends. Ouah, là, là, il a triché. Ouais, attends, il a triché. Ah, non, non, non,
pas
non,
du tout.
Arrête, arrête.
C'est
arrête,
la famille.
Arrête. Ah, ouais,
oh non. Comme pareil, il n'y a même pas de plusieurs tentatives en plus, hein. Ça tombe plus sur le bon.
Alors moi j'ai pas entendu le bruit du clavier derrière donc ça marche. Après en même temps l'écran tactile ça va pas facile. Allez j'accepte. Il y avait Bocchio Mollema qui a terminé deuxième.
Ah oui. Lui, on aurait pu le trouver parce que c'est un spécialiste de là-bas quand même.
Ouais, Julien sûr. Simon je crois qui a fini cinquième.
C'est accepté. On verra, hein, évidemment, vous savez, quand on a les pratiques antidopage, plusieurs années plus tard, on peut déclasser les mecs. Hein, donc,
voilà, t'as pas besoin d'années, là, c'est bon, on peut y aller direct.
Allez, 2-2 pour Jérôme et Johan, Pierre-Yves, un point. Sur le Tour 2019, au soir de la combientième étape, là, étape, il prend le maillot jaune pour la première fois.
Oh. Sixième.
Non, quatrième.
Troisième. Sept.
Troisième, c'était à Épernay après sa victoire d'étape. 3 points pour Jérôme. Julien Lafilippe a gagné la flèche wallonne.
Oh, c'était pour moi.
Pardon, comment tu t'appelles, toi, Johan? 3 points. Alors, il a gagné la Flèche Wallonne 3 fois, vous le savez, 2018, 2019 et 2021. Une seule réponse acceptée. Rapidité. Un coureur a partagé 2 fois le podium avec lui.
Valverde.
Roglic. Valverde. Jérôme Coppel. Deuxième en 2018, troisième en 2021. Nul, Valverde. Bah, mais bon, il a gagné les Bastogne-Liège. Allez, Rambo. Pierre Coachet a décidé de faire
là,
un sprint long. Hein, non, au contraire, justement, il va partir.
Un sprint décollé.
C'est ça.
Tu me dis quand tu as la question.
Il a toujours pas vu le panneau, tu sais, où on arrive pour le sprint. En 2018, question à une seule réponse, rapidité. Julien remporte le maillot à poids sur le Tour et 2 victoires d'étape. Qui gagne le Tour cette année-là ?
Thomas.
Kieran Thomas.
Oh,
oh là 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 là. Johan Bredov. 4 points. Il reste 2 questions. Pierre Coachet ne veut plus gagner. Pierre-Yves non plus. En 2021, il est champion du monde à Imola. Le premier qui trouve, vous avez le droit à plusieurs réponses. Est-ce que vous êtes capable de me donner un seul de ses coéquipiers français ?
Julien Bernard.
Julien Bernard.
Bah oui, forcément.
Jérôme. Ouais. Bien joué. Il y avait également Kenny Ellison, Valentin Madouze, Guillaume Martin, qui à l'époque s'appelait Guillaume Martin, Rudy Mollard, Quentin Paché et Nance Peeters. Dernière question. Bah là, si jamais tu trouves Jérôme, tu peux égaliser.
Ah.
Quand j'ai pas égalisé déjà.
Ah si, t'as égalisé.
Si, je crois qu'il
4-4,
est...
pardon. 4-4. Pardon, excusez-moi les gars. Pierre, c'est bien, il compte les points, mais il a pas de points.
Au moins,
t'auras un bon. T'auras un bon point, Pierre. Allez, quand il finit, question à une seule réponse, hein, parce que là on va être exigeant. Quand il finit deuxième de Liège-Bastogne-Liège en 2015 derrière Valverde, qui complète le podium ?
Ça rien.
Allez, non, plusieurs réponses.
Ah, Bardet ?
Non.
Mais pourquoi plusieurs réponses ?
Parce que j'accepte plusieurs réponses.
Mais il y en a
parce que c'est chaud, parce que vous pouvez galérer.
Plutôt toi,
et parce que j'ai pas.
Ah oui, d'accord.
Parce,
okay.
Parce qu'en fait, j'ai pas d'autres questions derrière, donc il faudrait que j'en prépare une.
Ouais. Dans quelle année ?
En 2015. 2015 pour taper sur. 2015, qui complète le podium ?
Troisième, Valverde gagne à la Philippe, deuxième. Troisième en 2015.
Fugelsang ?
Non.
Mollema ?
Non.
Ah non, le merde.
Un puncher.
Martin.
Non, un puncher bien connu. Un espagnol.
Rodriguez.
Joaquim Rodriguez. Burrito Rodriguez, le cigare. C'est comme ça qu'il gagne, Johan Bredov, en fumant le cigare. Sur la ligne, il passe. C'est très, très fort. Et
merci,
bon,
merci,
mais Jérôme Coppel, il a quand même à soigner ses stats, hein, puisqu'il a donné quelques bonnes réponses. N'est-ce pas, Pierre ? Merci beaucoup, Pierre, d'être venu avec nous. Merci, Pierre-Yves. Merci, Johan. Merci, Jérôme Coppel. Abonnez-vous, évidemment, au podcast Cyclisme d'RMC, le peloton RMC. On espère qu'on ne vous a pas dégoûté du vélo. Hein. Parce que là, à vous dire, ah, c'est peut-être plus pareil. Mais non, on s'éclate toujours. Regardez, il y en a toujours, hein, des Van Aert, des Van Der Poel, les Sexas qui arrivent, des Del Toro.
Remco aussi.
Hein. Bien sûr, et le Tour de l'Avenir. Regardez le Tour de l'Avenir, il s'en passe des choses. On ne comprend plus grand-chose hein, avec les équipes nationales et les équipes en développement.
Mais au passe parfait.
T'as mal à ton Tour de l'Avenir, Jérôme Coppel ?
Un peu. Un peu. J'aime pas trop quand on mélange tout comme
ça. Ah ouais, c'est ça. Il faut être clair. Soit un truc, soit l'autre.
C'est ça.
Faut
pas, exactement.
Faut pas prendre toutes les décisions. Allez, les amis, vous vous abonnez à Le Peloton RMC, bien sûr, sur les différents réseaux. Merci à tous et à bientôt.
Le Peloton RMC.